chers camarades, chers amis, travailleuses, travailleurs. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous ce soir à l'occasion de cette fête et j'espère bien sûr que vous passerez un bon moment. Vous attendez peut-être avec impatience le banquet, mais vous savez que pour nous, c'est aussi l'occasion de discuter des problèmes du monde du travail. Et des problèmes, eh bien, il y en a. À commencer par les augmentations de prix, parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. De 4, 5, 10%, 20% pour le gaz cette année. Et qui, parmi nous, a vu son salaire, sa pension ou ses allocations augmenter à ce rythme? Personne. Alors, eh bien, on jongle tous avec les impayés, avec les factures, avec les dettes. Et qui parmi nous n'a pas de problème en fin de mois? Et qui parmi nous peut voir l'avenir sans être inquiet? C'est de plus en plus difficile pour ceux qui ont un salaire assuré. Alors que dire de nos proches et de nos camarades qui ont été licenciés? Combien en sont réduits au restaurant du cœur? Combien sont menacés d'être expulsés parce que ça fait des mois qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer? Et je ne parle pas de tous les jeunes qui n'ont pas de travail ou qui ne trouvent que quelques heures de boulot. Comment pourraient-ils faire s'ils n'avaient pas leurs parents pour les loger, pour les nourrir? Eh bien, malgré tout cela, on nous promet encore et encore des augmentations. D'ici 2015, c'est-à-dire dans les 4 ans qui viennent, l'électricité pourrait augmenter de 30%. Et pourquoi? Eh bien, parce que on a demandé, on a forcé EDF, qui a fait tout le boulot, qui a fait tous les investissements, à fournir de l'électricité à des entrepreneurs privés, pour que ces messieurs, les capitalistes, puissent aussi faire leur beurre là-dessus. Ouais. Alors bien sûr, en plus d'entretenir EDF, il va falloir entretenir Poweo, Direct Energy, GDF Suez. Dans ces conditions, eh bien, les prix ils ne peuvent que monter. Alors ceux qui auront l'argent, eh bien, ils paieront, y compris en se privant sur autre chose. Mais les autres, ceux qui aujourd'hui se privent déjà sur tout, qu'est-ce qu'ils feront? Ils arrêteront de se chauffer? Ils arrêteront le réfrigérateur? Ils s'éclaireront à la lampe à huile? On me dit souvent que j'exagère et qu'on n'est plus au 19e siècle. Mais si on les laisse faire, ils vont nous faire revenir au 19e siècle. Et là-dessus, le gouvernement ose nous dire qu'il va falloir faire des sacrifices parce que les déficits se sont creusés et qu'il faut rembourser la dette. Mais qui a fait cette dette? Qui a creusé ces déficits? C'est vous? C'est moi? Aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Mais souvenez-vous, des dizaines de milliards, des centaines de milliards d'euros qui sont allés renflouer les banquiers. Souvenez-vous des milliards qui ont été donnés aux grands groupes industriels de l'automobile. Et ces milliards, ils se sont rajoutés à encore d'autres milliards versés en permanence, en aide, en exonération de toutes sortes. Alors il ne faut pas chercher plus loin. L'argent, justement, qui manque dans les caisses de l'État et dans les caisses de la sécurité sociale, cet argent, il est dans les poches de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui en est redevable, c'est elle qui devrait rembourser. En attendant, c'est sur nous que ça retombe. Sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les plus pauvres. Quand le gouvernement recule l'âge de départ à la retraite, ce ne sont pas les banquiers qui sont concernés. Ça ne leur fait rien à eux. À 65, 67, 70 ans, ils s'accrochent à leur fauteuil, tellement la place est bonne. Et qu'est-ce que ça peut faire à la bourgeoisie? Arrêter de travailler à 62, 65, 67 ans, qu'est-ce que ça peut faire au rejeton de la famille Peugeot? Qu'est-ce que ça peut faire à tous ces gens-là qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, si ce n'est toucher les dividendes de leur capital? regardez Madame Bettencourt, la deuxième fortune de France. Elle a été à la retraite toute sa vie. Alors vous pensez que ça la concerne? Quand le gouvernement dérembourse des médicaments et augmente les franchises médicales, c'est la même chose. Ça ne touche que les riches, ça ne touche pas les riches, justement. Parce que eux, ça ne les empêchera jamais de se soigner. Ils payeront peut-être plus cher, mais eux, ils mettront le prix et ils se soigneront. Mais combien parmi nous ne peuvent plus ou hésitent avant d'aller consulter ou ne peuvent plus aller chez le dentiste? Combien parmi nous hésitent avant de s'acheter des médicaments qu'on appelle maintenant les médicaments de confort? Alors c'est vrai que pour les maladies graves, on est encore assez bien soigné. Ça c'est vrai, encore. Mais pour beaucoup de maladies moins graves, justement, eh bien, on se soigne de moins en moins. Et on recule comme ça, sur un tas de choses. Par exemple, le gouvernement supprime dans les écoles les auxiliaires de vie scolaire, les personnes qui doivent amener et accompagner les enfants handicapés. Eh bien, il en supprime de plus en plus. Alors, il le fait en catimini, il suffit de ne pas débloquer les financements nécessaires ou de baisser un peu les subventions et puis d'un mois sur l'autre l'enfant handicapé ne peut plus être pris en charge par l'école et l'auxiliaire perd son travail. Et c'est dramatique pour deux familles. Et puis quand on pense que le gouvernement se vante d'en faire toujours plus pour les handicapés, il y a vraiment de quoi être écœuré. Et puis vous le savez, désormais, les indemnités journalières perçues à l'occasion d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont imposables pour la moitié de leur montant. Pour le gouvernement, c'est une rentrée de 150 millions d'euros. 150 millions. Mais c'est une broutille à côté des 150 milliards de déficit budgétaire. Mais pour le gouvernement et pour la bourgeoisie, eh bien c'est toujours ça de prix. Pour eux, il n'y a pas de petite économie à faire sur le dos des travailleurs. Tout est bon à prendre. Et prendre dans la poche des travailleurs malades et accidentés, eh bien, ça ne les dérange pas. Ils sont prêts à tout. Et dans la même veine, la caisse d'allocation familiale compte réaliser une économie de 240 millions d'euros en modifiant la procédure pour toucher l'APL, l'aide personnalisée au logement. Autant dire que ça ne concerne que les classes populaires. Avant, les locataires avaient jusqu'à 3 mois à partir de l'emménagement pour faire leur dossier de demande d'APL et ces 3 premiers mois étaient pris en compte. Et bien maintenant, l'APL ne sera comptée qu'à la date de la réception du dossier. Et bien c'est encore 240 millions de prix dans la poche des plus modestes. Et c'est comme ça, avec une multitude de mesures qu'on ignore, soit parce qu'on n'est pas directement concerné, soit parce qu'elle nous semble secondaire. Mais c'est aussi au travers de ces mesures-là qu'on nous fait les poches et que nos droits reculent petit à petit et que toute la société se dégrade. Et tout ça pourquoi? Parce que la bourgeoisie et les plus riches ne veulent pas payer pour les dégâts qu'ils ont causés eux-mêmes. Quand leurs affaires vont mal, ils se tournent vers l'État. Et ils trouvent tout à fait normal d'être aidés à coups de millions, voire de milliards. Quand bien même ils sont riches. Mais ces gens-là, ils pleurent la bouche pleine. Ils n'en ont jamais assez. Alors je vous garantis, plus que tous nos discours, c'est la bourgeoisie, ce sont les capitalistes qui feront exploser la colère des travailleurs. Avec leur cynisme, leur cupidité et leurs ignominies, ce sont eux qui mettront le feu aux poudres. La responsabilité de Sarkozy et de son gouvernement dans l'aggravation de la condition ouvrière est écrasante. Mais il faut comprendre que cela vient de plus loin. Cela vient du grand patronat. Sarkozy est en première ligne, parce que c'est à lui d'assumer les décisions de l'État. Mais c'est le grand patronat, c'est la grande bourgeoisie qui commande. Sarkozy ne fait que les servir, il obéit. Oh, c'est un bon serviteur, qui va même au-delà des désirs de ses maîtres. Et la haine qu'il suscite dans les classes populaires, il la mérite amplement. Mais il n'est que le laquais de service. Et demain, il y en aura un autre. Les vrais maîtres de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Bolloré, les Dassault, les Michelin. Regardez Madame Bettencourt, encore elle. Elle n'est pas au gouvernement. Elle ne s'est même jamais présentée à aucune élection. Mais elle achète les ministres, c'est encore mieux. Avec sa fortune et de par le pouvoir économique qu'elle représente, elle a le gouvernement à sa botte. Et c'est vrai pour toutes les grandes fortunes. C'est vrai pour tous les hommes d'affaires. Ce sont eux qui dictent la politique à Sarkozy. Et ils n'attendent pas les élections pour dire ce qu'ils ont à dire, eux. Il leur suffit de décrocher le téléphone, ils ont une ligne directe à l'Élysée. Et puis, comme ces messieurs savent joindre l'utile à l'agréable, eh bien, ils invitent les députés, les ministres, les sénateurs à passer de bons moments. Et c'est comme ça qu'au lendemain de l'élection, Nicolas Sarkozy s'est retrouvé invité sur le yacht de Bolloré. C'est comme ça aussi que, sans y prendre garde, Michel Alliomari s'est retrouvé dans le jet d'un milliardaire tunisien, ami de Ben Ali. Et puis c'est comme ça que François Fillon, le Premier ministre, a passé ses vacances de Noël dans la paisible dictature de Moubarak. Eh bien voilà, être au pied de la bourgeoisie, profiter de la douceur de vivre des milliardaires et des dictateurs, c'est ce qui plaît au petit monde politique. L'argent n'a pas d'odeur, mais n'empêche, tout ce beau linge vit entouré d'une puanteur infâme, celle de l'exploitation et de l'oppression. Alors tous ceux qui gouvernent n'ont pas forcément des liens d'amitié avec la bourgeoisie. Mais c'est le cas de beaucoup, y compris à gauche. Si Lionel Jospin avait assez peu de liens avec la bourgeoisie, Martine Aubry, elle, elle en a déjà plus, ne serait-ce que par le fait qu'elle a travaillé pour l'entreprise privée Péchinet et avec l'homme d'affaires Jean Gandois, qui en son temps était le dirigeant du CNPF, l'ancêtre du MEDEF. Et puis, je ne parle même pas de Dominique Strauss-Kahn, qui vit dans le monde de la bourgeoisie. Mais, qu'ils le veuillent ou non, tous ceux qui sont au gouvernement sont soumis aux puissances de l'argent. Qu'ils aiment les riches ou qu'ils ne les aiment pas, ils sont soumis à leur diktat, ils sont soumis à leur chantage. Vous vous souvenez de Lionel Jospin ? Et comment il avait promis pendant sa campagne de 1997 qu'il ne fermerait pas Renault Vilvoorde. Et comment, une fois au pouvoir, il nous a expliqué qu'il n'y pouvait rien, que ce n'était pas lui qui décidait. Alors, tous ceux qui expliquent qu'en 2012, notre sort peut changer si nous votons bien, sont des menteurs. Parce que même si nous nous débarrassons de Sarkozy, nous aurons toujours ce grand patronat, avide, insatiable. Et si les dirigeants socialistes reviennent au pouvoir, est-ce qu'ils empêcheront le patronat de licencier, de fermer les usines? Est-ce qu'ils forceront le patronat à embaucher? Est-ce qu'ils obligeront le grand patronat à augmenter les salaires? Mais non, ils ne le feront pas, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et parce qu'aujourd'hui, même dans l'opposition, ils ne le promettent pas. Sur les salaires, Martine Aubry a été claire. Elle a dit, je la cite, « On ne pourra augmenter les salaires que si la croissance revient. » Mais la croissance des profits est là. La croissance des dividendes est là. 10 milliards bénéfices pour Total, 5 milliards pour Sanofi, 3 milliards pour Renault, 1,3 milliard pour PSA. Alors qu'est-ce que ça leur coûterait d'augmenter les salaires de 300, de 400, de 500 euros? Qu'est-ce que ça leur coûterait d'embaucher des intérimaires pour soulager les plus anciens? Les actionnaires du CAC 40, qui ne sont que des parasites, vont toucher cette année 40 milliards d'euros. et les travailleurs qui font tout, il ne faudrait pas qu'ils demandent d'augmentation de salaire pour le Parti socialiste. La seule promesse que le Parti socialiste fait, c'est sur les retraites. Ah, ils sont pour la retraite à 60 ans. Mais avec 41 annuités et demie de cotisation, la belle promesse. Même dans l'opposition, les dirigeants socialistes sont à plat ventre devant la bourgeoisie. Alors vous imaginez au pouvoir? Voilà pourquoi nous continuerons pendant la période qui vient d'affirmer plus que jamais que les travailleurs devront se défendre eux-mêmes pour ne pas se faire écraser par le capital. Les travailleurs devront se défendre avec leurs propres moyens, avec leurs propres armes de classe, les grèves, les manifestations de rue. Une explosion sociale assez puissante pour que la classe capitaliste craigne pour ses profits et pour son pouvoir sur l'économie. De plus en plus de travailleurs comprennent qu'entre la gauche au pouvoir et la droite au pouvoir, il y a peu de différence. Il n'y a pas la même arrogance chez les dirigeants socialistes que chez ceux de droite, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça change aux fins de mois difficiles? Alors à la longue, cette alternance au pouvoir finit par dégoûter beaucoup de monde dans les milieux populaires. Cela amène certains travailleurs à ne plus se déplacer pour aller voter. C'est certainement mieux que de croire dans le Père Noël, mais ça ne fait pas une politique pour les travailleurs. Quant à ceux, parmi les plus pauvres, qui ont choisi de voter pour le Front National, c'est bien pire. Le camp de Le Pen, c'est le camp de la réaction. Le noyau dur de son électorat, ce sont les milieux conservateurs, calotins, hostiles aux travailleurs depuis toujours. Ce sont les petits commerçants, les artisans, qui trouvent que les ouvriers ne travaillent jamais assez. Ils ne font que 35 heures, alors qu'eux, ils en font 45, 50. C'est cet électorat Le Pen qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires et qu'ils sont trop bien payés pour ce qu'ils font. C'est eux qui ne supportent pas les syndicats. C'est eux qui accusent les chômeurs, les jeunes sans travail, de vivre au crochet de la société. Alors la droite traditionnelle et la gauche, du Parti socialiste au Parti communiste, ont tout fait pour dégoûter les chômeurs et les catégories les plus mal payées. Ce sont eux, finalement, qui ont fabriqué le Front National. Et ce sont eux qui le refabriquent par leur démission et par leur couardise devant la bourgeoisie. Mais se démarquer de l'UMP et du PS et les rejeter en votant pour le FN, c'est se tirer une balle dans le pied. Voter pour le FN, c'est cautionner la même politique que Sarkozy en pire. Comme Sarkozy, le FN est un défenseur des riches, un défenseur de la propriété, un défenseur de la société telle qu'elle est, avec l'exploitation capitaliste, avec ses inégalités et ses injustices. Au lieu de dénoncer la classe capitaliste, au lieu de dénoncer ceux qui vivent de l'exploitation, les rentiers, au lieu de dénoncer ceux qui sont responsables du chômage parce qu'ils licencient, le Front National jette en pâture les travailleurs immigrés. Le FN, le Front National, cherche à monter une partie de la classe ouvrière contre une autre. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour les travailleurs. Par-delà les origines, par-delà la couleur de peau, par-delà les croyances, la société est surtout divisée en classes sociales. Elle est surtout divisée entre riches et pauvres, entre travailleurs et exploités. Quel point commun y a-t-il entre les ouvriers, même français, de PSA et la famille Peugeot? Aucun ouvrier de Sochaux ne cache 50 000 euros en lingots d'or dans sa salle de bain, comme l'a fait Robert Peugeot. 500 000 euros de lingots, effectivement. Quant à passer une journée entière sur une chaîne de montage, je ne pense pas que ça leur soit arrivé très fréquemment. Mais c'est le lot quotidien des milliers d'ouvriers des usines Peugeot, qu'ils soient d'origine française, marocaine, algérienne, portugaise, italienne, espagnole, et j'en oublie. Oui, tout cela, ils partagent ce sort-là en commun, et ils sont amenés à se défendre ensemble. Et c'est une lutte de tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'il faut résister aux augmentations de cadence. C'est tous les jours qu'il faut résister aux augmentations des charges de travail. C'est tous les jours qu'il faut se battre simplement pour que le droit à la pause soit respecté, pour que les heures supplémentaires soient payées, pour que les accidents du travail soient déclarés en tant que tels. Parce qu'entreprise par entreprise, usine par usine, le patronat mène une véritable guerre de tranchées pour que le travailleur travaille toujours plus et soit payé toujours moins. Ça, c'est la lutte de classe, c'est la guerre de classe. Ce sont peut-être des vieux mots, mais il n'y en a pas d'autres. Merci. Les journalistes sont béats d'admiration devant les magnifiques bénéfices du CAC 40. Parce qu'ils ont augmenté de 10, 20, 80%. Mais il n'y a pas de miracle. 10% de bénéfices de plus, ça veut dire 10% pris sur le monde du travail. Leur profit, leur prospérité, elle est basée sur notre sueur et sur l'appauvrissement de nous tous. Alors, il n'y a pas de quoi se réjouir. Eh bien, c'est sur la base de cette conscience-là que nous pourrons réellement nous défendre et changer notre sort. Pour vivre mieux, avec de meilleurs salaires, sans que les uns soient condamnés au chômage pendant que les autres se tuent au travail, eh bien il faudra combattre l'exploitation, combattre le parasitisme et la dictature des capitalistes sur l'économie et sur la société. Tant que les travailleurs ne pèseront pas sur la politique et sur le patronat avec leurs propres armes, avec la grève et les manifestations, il ne se passera rien de décisif sur le plan politique, rien en tout cas en notre faveur. Tant que les travailleurs ne rendront pas coup sur coup dans la guerre de classe, rien de fondamental ne changera pour nous. Nous resterons soumis aux inégalités, aux injustices et aux crises de ce système complètement fou. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Ah, les médias en font déjà un événement politique majeur. Et cela le sera pour eux, ça c'est sûr. Ils ont fait tout un cirque pendant une semaine du mini-remaniement qu'il y a eu le week-end dernier. Alors vous imaginez 2012, un remaniement en version plus large. Mais 2012, ça sera justement que ça, qu'un remaniement de plus où on va changer les têtes sans changer de politique. Pour que la politique et que la situation changent pour les travailleurs, il faut que la classe ouvrière fasse pression elle-même par en bas. Il faut qu'elle utilise sa force sociale, son nombre, son poids et son rôle dans l'économie. Toute la semaine, on nous a rabâché que Juppé était l'homme fort du gouvernement. Mais en 1995, cet homme fort qui avait déclaré qu'il resterait droit dans ses bottes, eh bien il n'a pas pu résister face à la force sociale des travailleurs en lutte. Et il a dû remballer son plan d'attaque contre les retraites et la sécurité sociale. En mai-juin 1968, le pouvoir fort de Gaulle a été ébranlé et affaibli par la force plus puissante encore des travailleurs rentrés dans la grève en ayant été entraînés par les étudiants. Eh bien voilà, lorsque les travailleurs entrent en lutte, lorsqu'ils se mettent en grève pour de bon, il n'y a plus de pouvoir fort. Il n'y a plus d'hommes forts. Ce qui compte, c'est la force des travailleurs. Parce que sans leur travail, il n'y a plus d'argent qui se fait. Sans leur travail, il n'y a plus de profit, il n'y a plus rien qui tourne dans la société. Cette force, on l'a sentie lors des grèves et les manifestations de septembre-octobre. contre le recul de l'âge de la retraite. On a redécouvert ce que c'était de manifester par milliers, par centaines de milliers. Ouvriers sur chaîne, ouvriers de chantier, cheminots, employés, instituteurs, infirmières, salariés de petites entreprises. On s'est retrouvés tous au coude à coude pour dénoncer la même chose, des conditions de travail de plus en plus pénibles et un ras-le-bol d'avoir à payer toujours et toujours alors que la minorité de riches continue d'accumuler des fortunes. Mais les grèves sont restées limitées, en particulier dans les grandes entreprises. En fait, elles ont touché essentiellement les cheminots et les raffineries, et la bourgeoisie n'a pas craint pour ses profits. À aucun moment, le grand patronat ne s'est senti acculé. Il ne s'est pas senti menacé dans sa propriété, comme cela fut le cas en mai-juin 1936, au moment des occupations d'usines. Alors, nous n'avons pas réussi à le faire reculer. Mais on a redécouvert qu'on formait une seule et même classe ouvrière. On a redécouvert que la classe ouvrière pouvait agir en tant que telle et défendre ses propres intérêts. Eh bien, c'est précieux pour l'avenir, parce que les luttes, elles ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. Après tout le mal que je vous ai dit des élections de 2012, je tiens quand même à préciser que Lutte ouvrière y participera en présentant ma candidature. Parce que si nous n'avons aucune illusion sur les changements qui peuvent en suivre, eh bien nous pourrons au moins nous exprimer et on ne s'en privera pas. Je défendrai plus largement à la radio, à la télévision, les mêmes idées que j'ai défendues et que j'ai présentées ce soir. Comme nous le faisons en militant tous les jours, dans les entreprises, dans les quartiers, je défendrai non pas un programme électoral, mais un programme de lutte pour les travailleurs. Et c'est pour cela que je commencerai mes discours, comme le faisait Arlette Laguiller, par un travailleuse-travailleur. Nous dirons et nous redirons que oui, on peut s'attaquer aux deux catastrophes qui frappent les travailleurs, le chômage et les bas salaires. Le chômage, ce n'est pas une fatalité. On peut le faire disparaître en imposant au patronat l'interdiction des licenciements et en imposant que le travail soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. On peut aussi stopper la baisse du pouvoir d'achat en imposant une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite et en les protégeant de l'inflation par l'échelle mobile des salaires. Mais pour cela, il faudra des luttes puissantes. Mais ces luttes, elles peuvent nous surprendre. Comme nous avons tous été surpris par les révoltes du monde arabe, pendant des décennies, ces peuples ont subi et se sont résignés jusqu'au jour où, en Tunisie, un vendeur de rue s'est immolé. Et à partir de là, tout le pays s'est embrasé. Et la chute de Ben Ali a été elle-même un formidable espoir pour les autres peuples de la région qui ont pris courage et qui ont pris conscience de leur force. Et à partir de là, bien des choses sont devenues possibles. Alors, quand nous parlons d'une explosion sociale, nous ne rêvons pas. Quand on voit avec quelle vitesse la révolte s'est propagée de la Tunisie à l'Égypte, à la Libye, et puis aujourd'hui au Yémen, au Bahreïn, eh bien on imagine comment à l'échelle d'un même pays, une grève peut se propager d'une usine à une autre, d'une ville à une autre, et comment elle peut embraser tout le pays. Une telle situation explosive, imprévisible, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement, voilà ce que la bourgeoisie craint plus que tout. Et voilà ce que nous, nous souhaitons. Parce que c'est seulement une réaction massive, explosive du monde du travail qui pourra arrêter les coups portés à la classe ouvrière. Et puis nous le souhaitons aussi parce que c'est lorsque la mobilisation s'élargit et s'approfondit que les travailleurs peuvent apprendre à diriger eux-mêmes leur lutte et qu'ils peuvent découvrir qu'ils sont non seulement capables de cela, mais qu'ils sont capables aussi de diriger l'économie et bien mieux, que les capitalistes. Et en tant que communistes révolutionnaires, eh bien nous sommes convaincus que dans ces situations-là, les travailleurs pourront faire des choses grandioses. Exproprier la bourgeoisie, débarrasser la société de l'exploitation et de ses exploiteurs et fonder une nouvelle société où les travailleurs ensemble dirigeraient l'économie pour qu'elle réponde aux besoins de tous.